Appréciez cette émission, alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Oui, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller sur radiocourtoisie.fr pour soutenir la radio que vous écoutez. Vous pouvez également envoyer un chèque à Radio Courtoisie 61 boulevard Murat, parce que nous avons grand besoin de votre aide. À tel point d'ailleurs que cette semaine, nous n'aurons pas de courrier d'auditeurs à vous lire, puisque bah, malheureusement, il n'y a pas eu assez de chèques, ou en tout cas, il n'y a pas eu assez de petits mots gentils qui les accompagnaient. Voilà, donc je compte vraiment sur vous, parce que, encore une fois, si vous pouvez écouter ce genre d'émission avec des journalistes comme William Molinier, mais aussi avec Damien Rigueux, avec Richard Decaize, avec Alexis Poulain, avec Arthur de Vatrigan ou Jean-Yves Le Gallou, eh bien, c'est uniquement parce que vous nous aidez. Nous n'avons pas de publicité, nous n'avons pas de subvention. Donc vraiment, nous comptons sur vous. On va aborder justement un sujet qui devrait plaire à une partie des auditeurs, et peut-être même à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est cette vaste enquête sur le nouveau racisme qui a été menée par l'IFOP, qui a été menée donc en 2025, et dont on a les résultats maintenant. Menée sur un très large échantillon, 14 000 personnes, représentatives donc de la population française, évidemment, hein, comme toutes les enquêtes de ce genre, et qui a quand même des résultats assez impressionnants. Donc, puisque, outre les habituels critères sur les enquêtes concernant le racisme, concernant les personnes d'origine africaine ou maghrébine, qui se déclarent évidemment victimes d'actes ou de comportements racistes, eh bien, cette fois-ci, le projecteur est braqué sur d'autres catégories. Donc, on a par exemple les Asiatiques, qui disent qu'à plus de 70%, ils ont été victimes de comportements racistes, mais ce qui est très intéressant, et ce qui n'avait jamais été dit auparavant, c'est qu'ils désignent les gens dont ils sont victimes. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont en gros victimes, entre énormes guillemets, de la part des Français de souche, d'une sorte de, comment dirais-je, c'est pas une discrimination positive, mais c'est une forme de réduction au modèle du bon élève, c'est-à-dire que c'est la minorité positive, celle qui se comporte bien, qui bosse, qui travaille, qui ne fait pas d'ennui, dont les enfants travaillent bien à l'école. Donc il y a un petit côté peut-être un peu caricatural. C'est vrai qu'on imagine que tous les Asiatiques ne sont pas des gens bien, mais bon, mais c'est, en tout cas, c'est le stéréotype que les Français de souche leur attribuent. En revanche, les choses moins sympathiques, donc les agressions, les vrais actes racistes, les vraies insultes, sont en grande partie le fait de populations elles-mêmes d'origine immigrée et spécifiquement d'origine africaine ou d'origine maghrébine. Vous me direz que les Maghrébins sont d'origine africaine aussi, mais nord-africaine et subsaharienne, si je puis dire. Alors, on nous dit également que 80% des Français de confession juive ont été victimes de racisme, et là encore, ce que l'on pointe, c'est plutôt les populations d'origine étrangère, et, chose qui ne s'était jamais produite auparavant, on nous explique que pratiquement 40% des Français blancs déclarent avoir été victimes de discrimination raciale au cours de leur vie, et là encore, c'est au profit ou du fait de populations d'origine étrangère. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir cette étude et les conclusions que vous en retirez de votre côté. Alexis Poulain, on ne vous a pas beaucoup entendu. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher sur l'étude. Est-ce que...
Non, je n'ai pas vu l'étude, mais les chiffres paraissent énormes, en fait. On a souvent ce type d'études. Je ne sais pas comment sont faites ces études, en fait, pour déjà aller chercher les populations victimes d'actes racistes. Est-ce que vous avez un point sur la méthodologie,
oui,
en fait?
C'est déclaratif. Alors, c'est déclaratif, ouais. Mais en fait, les enquêteurs de l'IFOP passent un certain temps. Par exemple, ils peuvent passer un an ou ils peuvent passer un trimestre à interroger par téléphone un panel de gens qui généralement sont inscrits sur comme comment dirais-je,
panélistes,
voilà, qui font acte de candidature pour être interrogés, ou alors ce sont des gens qui ne sont pas inscrits et qu'on appelle au hasard, et c'est un peu tous ces appels intempestifs parfois qu'on reçoit, et on nous dit c'est l'IFOP, c'est je ne sais qui, est-ce que vous voulez répondre à une enquête, et on fait ça jusqu'à avoir un échantillon important, généralement, alors ça, les plus petits c'est 1000, là c'est 14 000, et qui soit représentatif de la population, et c'est généralement au-dessus de 15 ans. Et c'est pas généralement, c'est nécessairement au-dessus de 15 ans. Et voilà, donc ça, là on nous dit, l'IFOP nous assure que c'est l'une des plus amples qui a jamais été menée en France, et voilà, donc ce sont ces gens qui répondent.
D'accord. Ouais, mais c'est vrai que c'est, vu l'ampleur de l'étude, ça montre quand même un fait et des chiffres assez étonnants. Mais
En fait, ce qui est bizarre, c'est la nouveauté, quoi.
Oui, c'est ça. C'est de dire, voilà, on va le sortir maintenant, à un an de l'élection présidentielle, avec cette idée de lancer le débat sur, la question, c'est où on en était et pourquoi on en est là. Et est-ce que c'était déjà la même méthodologie lors des études passées, hein, sur ce phénomène?
Alors ça, je pense que non, pour le coup, parce que je pense que les échantillons n'étaient pas aussi importants et les questions et les responsabilités n'étaient pas aussi pointées. Damien Rieu, je crois que vous vouliez intervenir.
Oui, le racisme anti-blanc, on savait que c'était le plus nié, hein, puisqu'il a longtemps pas existé.
Alors, invisibilisé.
Je crois aujourd'hui percevoir quand même que c'est une théorie qui faiblit et que désormais il est assez reconnu par des personnalités de plus en plus centristes. C'est vraiment un phénomène qui tend aujourd'hui à ne plus être nié. Il est en tout cas banalisé, ça c'est sûr. Il est même autorisé, car assez peu, voire très rarement sanctionné. On se souvient de ce rappeur, hein, qui appelait à tuer les bébés blancs, notamment. Et puis Mélenchon, qui régulièrement, il y a quelques jours, qui parlait des tout blancs, tout moches, ou qui avait dit « je ne supporte pas des blancs, d'être au milieu de blancs aux yeux bleus ». Il n'a jamais été poursuivi, ni condamné, encore moins condamné pour ses propos. Mais on sait donc désormais qu'en plus de ça, c'est maintenant le plus répandu. Parce qu'en fait, si on calcule bien, au rapport du pourcentage de personnes qui se définissent comme blanches et qui ont déclaré ressentir, avoir subi des actes de racisme anti-blanc, et ben ça ferait quasiment 20 millions de victimes en France de racisme anti-blanc. Donc c'est un chiffre qui est absolument incroyable. La cible la plus répandue, ce sont les blancs, et pourtant c'est celle qui est encore la moins, je dirais, qui préoccupe le moins nos autorités, qui ne fait l'objet d'aucune campagne de prévention, qui est d'ailleurs systématiquement écarté de toutes les politiques et réflexions sur les discriminations, alors que c'est le plus important. 20 millions de victimes, je ne sais pas si on se rend compte, c'est énorme.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, je plus sois, ça prouve la déconnexion totale de l'appareil judiciaire par rapport à la réalité. Puisque l'appareil judiciaire, il connaît quand même un certain nombre d'affaires de racisme dont les Africains ou les Maghrébins seraient les victimes, mais il ne connaît pratiquement pas d'affaires dont les Blancs seraient les victimes. Et quand il en connaît, il écarte le critère. On le voit dans l'affaire de Crépol, où il y a eu beaucoup de témoignages de victimes ou de proches des victimes qui ont dit « sale blanc, on va tuer les Seffrans, on va tuer les Gouers ». Et pour l'instant, l'affaire n'a pas été, ce point-là, n'a pas été retenu par les juges. Donc il y a une distorsion totale. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est le formidable échec de la loi de 1972 censée lutter contre le racisme et l'antisémitisme. En 1972, il y a eu donc la loi Pleven qui a créé condamné l'appel à la discrimination ou à la haine en raison de la religion, de la nation, de la race. Et à l'époque, il n'y avait pratiquement pas de racisme ou d'antisémitisme. Il n'y a peut-être pas l'enquête correspondante à cette époque-là, mais ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est absolument massif. Et pourquoi c'est absolument massif ? Bah précisément à cause de cette loi de 1972 qui a interdit la critique de l'immigration et qui a donc permis l'immigration massive qui débouche aujourd'hui à la fois sur ce racisme anti-blanc et sur ce nouvel antisémitisme. C'est-à-dire qu'on a créé une loi qui était censée lutter contre un problème qui existait à la vérité assez peu à l'époque et qui maintenant existe profondément.
On a fait beaucoup d'efforts pour le créer.
C'est assez fréquent d'ailleurs, c'est connu en sociologie, ça s'appelle effets sociaux, effets pervers, le sociologue Raymond Boudon a écrit là-dessus, ou ça s'appelle l'hétérotélie, le sociologue Jules Monroe a écrit là-dessus, donc c'est pas très étonnant. Moyennant quoi, on continue avec de nouvelles lois, puisque je crois que cette semaine, l'Assemblée nationale doit débattre de la proposition de loi à Yadan, qui rajoute une petite couche supplémentaire à ce dispositif absolument invraisemblable, catastrophique pour les libertés et qui aboutit à des résultats exactement à l'opposé de ce qu'il était censé produire.
Arthur de Vatrigan, un mot sur cette enquête ?
Oui, juste un mot sur la loi Yadon, en effet, loi de voter cette semaine, mais il semblerait qu'elle soit plus finalement qu'elle passerait peut-être pas. Disons qu'il y a eu beaucoup de voix qui sont réveillées ces derniers jours, de Anne Rosin-Cher sur France Inter, au Figaro, à Bocoté sur CNews, avec des arguments assez précis.
Est-ce que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ce qu'est cette loi
également en gros, c'est... Je pense que... je vais faire mon complotisme, mais je crois que c'était une loi qui a été... Alors, il y a la députée Yadon qui la porte, mais elle a été créée, à mon avis, par un collectif qui s'est créé au moment de l'affaire Dieudonné, et qui poursuit Dieudonné en permanence, pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises, parce qu'il y avait dans ce projet de loi, en tout cas au départ, je ne sais pas si c'est le texte, ce texte-là va être voté, mais le mot farce dedans. Et on voit que le projet de loi contre l'antisémitisme va tellement loin. Alors il y a le délit d'insinuation, il y a l'interdiction de comparer les génocides, de faire appel au nazisme, de faire des comparaisons avec le terrorisme, et ça va jusqu'à la possibilité de condamner ce qui serait de la mise en scène ou de la farce.
Enfin, c'est une loi qui concerne la redéfinition de l'antisémitisme en France.
Oui, ah oui, pardon, j'ai pas dit ça.
Voilà.
Oui, mais avec ces nouveaux délits, donc c'est un truc, bon, en gros, on pourra plus rien dire. Mais vraiment, on pourra plus rien dire du tout.
Ça posait un problème grave qui était même la critique d'un État.
Oui, mais c'est même au-delà de ça, c'est même pas que la critique d'un État. Vous allez expliquer qu'un tel c'est du nazisme, ou vous pouvez être condamné en fait. Vous pouvez dire le terroriste c'est ça, ils vont dire non, le terroriste c'est pas ça, c'est ça. Ou que le génocide vendéen par exemple, non, c'est pas un génocide parce que c'est pas été reconnu comme tel. Donc vous pouvez... en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est au-delà de la question de l'antisémitisme et d'Israël. Ça va très 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 loin, et le problème. Et pour revenir donc, pardon, à votre sondage, à votre étude, ce que disait Jean-Yves sur le fait qu'il y ait des. Peu d'actions judiciaires. Alors, en effet, quand il y en a quelques-unes qui sont rares, bah, si vous tombez sur le mauvais juge, il va le mettre de côté, mais la différence des autres, l'antiracisme contre le racisme anti-blanc, bah, c'est pas un truc qui est coordonné, c'est pas un truc qui est formé, c'est pas un truc qui est financé, il y a guerre d'institutions, il y a peu de gens qui deviennent partie civile, donc voilà, donc forcément, bah, c'est moins médiatique et puis il y a moins d'action en justice également.
Et puis surtout, il y a beaucoup de classements sans suite, parce qu'il y a quelques associations, quelques associations, il y a notamment l'association de Bernard Anthony qui a engagé un certain nombre de la griffe, mais en général, ils sont déboutés. Mmh. Donc effectivement, ça n'encourage pas, ça permet pas de payer des avocats, parce que le système antiraciste, il paye des avocats, mais il paye des avocats employés par des associations antiracistes qui ont l'oreille des magistrats et donc qui se nourrissent.
Bah, ils font un réseau,
dans le camp contraire, mais dans le cas contraire, les affaires ne débouchent pas, donc effectivement, ça n'encourage pas en développer ceci étant, moi je suis...
C'est une création politique, hein, l'antiracisme. Vous ne pouvez pas pomper le modèle sans avoir les réseaux, sans avoir les méthodes, sans avoir l'oseille, sans avoir toutes les structures qui vont avec.
Et au demeurant, moi personnellement, je suis pour l'abrogation de ces lois-là, plus que pour leur utilisation, parce que ces lois-là sont totalement contraires à la philosophie européenne de la disputation, de la recherche de la vérité par la confrontation des points de vue et de l'émission, effectivement, d'idées qui peuvent paraître... choquante ou scandaleuse, voilà. Donc, on devrait aller vers l'abrogation. Et c'est assez intéressant de voir que la loi Yadan, je ne sais pas si elle passera ou pas, mais elle ouvre quand même, il y a quand même un débat. Ça, c'est déjà un élément positif.
Richard de Sèze.
Oui, vous avez souligné, je trouve, l'élément le plus intéressant dans l'étude, parce que on s'est focalisé sur effectivement la manière dont les gens assimilés blancs ou qui s'auto-assignent blancs ont désigné qui les méprisait, qui les insultait, etc. Mais alors que les résultats sont aussi assez fortement en faveur de ceux qui sont les plus victimes du racisme, ce sont les populations noires, ce sont les populations maghrébines, etc. Je ne parle pas de l'analyse que vous avez faite du fait que 40% de blancs, évidemment, ça, on obtient 20 millions de Français. Là, quand on lit l'étude, c'est surtout la discrimination des populations issues de la diversité qui est mise en avant. Mais c'est le fait qu'on reconnaisse en fait un antagonisme communautaire. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est-à-dire, pour une fois, on ne pose pas des questions sur... Êtes-vous raciste? Ressentez-vous du racisme? Mais surtout, on demande de désigner en fait ceux qui sont racistes. Autrement dit, ethnographiquement, on commence à nous expliquer que oui, il existe des communautés homogènes et différentes en France. Et ça, pour moi, c'est le plus grand pas méthodologique intéressant et oui, sans doute la chose la plus significative sur ce qui va ensuite être, ce qui va pouvoir être produit ensuite.
C'est l'acte de décès du vivre ensemble.
Absolument.
La doctrine, l'idéologie du vivre ensemble.
Damien Rieu.
Non, sur ce racisme anti-blanc, je voudrais quand même rappeler que ce racisme anti-blanc, il s'illustre de manière géographique, hein, avec ces réfugiés de l'intérieur, ces gens qui fuient, des quartiers où ils sont constamment victimes de l'insécurité. Je veux dire, ça se matérialise de manière très concrète par un flux ininterrompu depuis 40 ans de gens qui fuient des départements, des villes, des quartiers qui sont expulsés par l'insécurité et expulsé parce que blanc. Je voudrais parler également du fait que ça se retrouve, par exemple, sur les terrains de football, où aujourd'hui, être un petit blanc et jouer au football, c'est quasiment, hormis peut-être dans quelques départements préservés, c'est quasiment être toujours confronté à du racisme anti-blanc. Donc il y a des sports aujourd'hui qui sont interdits aux blancs. Et puis, de manière plus large, moi j'aimerais un jour que la prochaine étude nous disent sur la question de la délinquance, qui sont les auteurs et qui sont les victimes de la délinquance. Et on en revient à la question des statistiques ethniques, mais peut-être, j'émets une hypothèse, peut-être qu'un jour, on découvrira que les délinquants ont souvent un même profil et surtout ne ciblent quasiment à 90% toujours un même autre profil. Et peut-être qu'on pourra en conclure beaucoup de choses sur le racisme. Et puis enfin, ce que je voulais dire, c'est que ça s'illustre aussi par des meurtres. Alors, il y a eu des faits divers très connus, mais je voudrais quand même rappeler que au Bataclan, notamment, hein, dans les récits qui sont faits, dans un article, là, je lisais encore tout à l'heure, que l'un des djihadistes s'est adressé à une des victimes à la pommade et lui dit « Toi, t'es des nôtres », avant de l'épargner et de tirer sur un autre jeune à ses côtés. Donc, même dans le terrorisme, il y a aussi du racisme anti-blanc. Donc on retrouve ce racisme anti-blanc à toutes les échelles, dans la petite délinquance, dans le terrorisme de masse, dans l'insécurité du quotidien géographique, et puis dans des zones comme les cours de récréation, c'est sûr, et ça fait l'objet du livre de M. Bousquet, ou eh bien sur les terrains de football.
Alors, il y a quelque chose que l'enquête ne pointe pas, ce sont les responsables finalement de cette situation de multiracisme à laquelle nous sommes arrivés.
C'est-à-dire que c'est personne responsable de l'immigration.
Ah oui, c'est ça.
C'est très simple. Et derrière les responsables de l'immigration, c'est ceux qui ont interdit tout débat sur l'immigration. Parce que les intellectuels, les artistes, les essayistes, les hommes politiques qui ont parlé les premiers de l'immigration ont été diabolisés, marginalisés. Ils ont perdu leurs éditeurs. Deux des plus grands écrivains français, Renaud Camus
et
Richard Millet, ont perdu toute possibilité de travail, quasiment. Bon, Raspail, lui, c'est moins grave. Enfin, ça lui a fermé l'Académie française, voilà. Donc, ça dissuade. C'est extrêmement dissuasif. C'est dissuasif, ceux qui ont fait carrière, c'est ceux qui ont caché le problème ou qui ont chanté les louanges de la bienfaisante immigration et du vivre ensemble.
Alors, il y a une auditrice qui nous dit « Vous avez oublié la déclaration de Kassovitz, Mathieu, donc Kassovitz, qui nous a traité, nous, Français, de fin de race. J'espère que c'était involontaire. » Oui, chère madame, évidemment.
On ne peut pas faire la liste de tous les propos.
Ouais. Soyez certains que nous n'avons pas forcément en tête tous les propos et que si nous ne les citons pas, c'est peut-être simplement parce qu'on n'y pense pas tout de suite. Mais c'est une bonne remarque.
Mais alors, ça, c'est un problème psychologique. C'est
pas pareil. J'avais, moi, une dernière question.
Pour résoudre son souci.
Avant de parler.
Mais c'est vrai, si vous regardez l'histoire de Sarkozy, c'est qu'il a toujours rêvé d'être le gros black. Il l'explique dans ses making-of quand il fait la haine, c'est ça. Dans toute son histoire, c'est ça. C'est le petit juif qui joue au basket, qui était face au gros black et qui voulait appartenir à eux et qui n'a pas réussi à appartenir à eux. Donc il a un complexe.
Sauf quand il est allé à la santé, peut-être.
Mais il était pour quelle raison qu'il y avait été déjà.
On parle de Nicolas Sarkozy.
Ah oui, d'accord. Ah, oui, Nicolas Sarkozy.
Ah non, pardon, on parlait de Kassovitz, moi.
Ah oui, pas de Sarkozy. Ah, Kassovitz, ah bon, d'accord.
Kassovitz, Sarkozy a été à la santé, mais pour une autre raison.
Pour autre chose. Oui,
et peut-être qu'il va y revenir pour les mêmes raisons.
Alors, il y avait un autre point pour conclure avant de parler de Boualem Sansal, c'est quand même la question des représentations. Parce que cette étude, elle est fondatrice, donc elle marque la fin du vivre ensemble, ou en tout cas son échec. Mais est-ce qu'elle pourrait, selon vous, marquer le début d'une nouvelle forme de représentation du racisme dans les messages, par exemple, officiels, dans les spots publicitaires, dans les campagnes antiracistes. Est-ce qu'à un moment, selon vous, le gouvernement va peut-être commencer à se dire « Tiens, si je mettais en scène un blanc se faisant maltraiter par d'autres catégories de la population que je ne citerai pas pour ne pas avoir d'ennui. »
Un jeune footballeur.
Oui. Non, mais je ne sais pas, est-ce que, à votre avis, c'est crédible? Est-ce que ça peut
être. Il va falloir peut-être attendre encore un peu, non? Damien.
Damien Rieu.
Je n'y crois pas beaucoup, on voit plutôt l'inverse et dans le monde entier. Il y a un clip anglais là, qui tourne beaucoup ces derniers jours où on voit. C'est souvent les scènes dans les transports en commun où celui qui dérange les autres dans les transports en commun est toujours un blanc. Ça, c'est systématique. C'est lui qui parle fort. C'est lui qui met ses pieds sur le siège.
C'est lui qui fraude.
C'est lui qui fraude, voilà. Donc on est plutôt sur l'inverse, toutes les campagnes accablent le blanc. Donc si au moins on pouvait avoir un peu de neutralité, un peu de diversité dans les profils de gens qui ont des comportements inciviles, ce serait déjà le début de quelque chose.
Après, est-ce que ces campagnes ont déjà servi à quelque chose?
Non.
Genre, imaginez, vous mettez vos pieds sur les trucs, vous tapez des gens, vous voyez une étiquette ou un post-it, vous allez arrêter de le faire?
Ouais. J'avoue, je n'en sais rien. Je me suis jamais posé la question.
Je
suis censé d'être irrité.
Ça finance des agences de com.
Ah oui, ça c'est autre chose.
Et des associations.
Pauvrement, généralement, c'est pro bono, mais surtout, ça permet de renforcer le masochisme des populations qui se disent c'est vrai, il faut que j'en fasse.
Comme des salopards.
Voilà. Donc, elles ont un véritable impact. Voilà, effectivement.
C'est incapacitant.
Le blanc déconstruit, le mari de Sandrine Rousseau se dit qu'il est encore plus coupable qu'il ne le croyait.
Ouais. Voilà. Et que finalement, c'est bien fait qu'hier, il se soit fait casser la gueule et dépouiller de son téléphone portable dans le métro.
Exactement. Et que nous n'aurons pas la haine et qu'il ne viendra jamais accuser ceux qui l'ont fait.
C'est vrai. Bon, alors, ceux qui l'ont fait, là, c'est Le Monde. On va passer à Boualem Sansal, puisque Arthur de Vatrigan doit bientôt nous quitter, mais je pense que c'est un sujet qui l'intéressera. Donc, on a parlé la semaine dernière de Jean-Yves Camus, le politologue initialement marqué à gauche, qui se fait maintenant attaquer par Le Monde parce qu'il aurait basculé du côté de la bête immonde et qu'il ne serait plus assez hostile à son sujet d'étude. Ce qui est d'ailleurs fort intéressant, parce qu'en gros, on vous demande quand même, non pas d'être un chercheur cherchant la vérité, mais d'être hostile à ce sur quoi vous travaillez. Ça montre déjà une certaine mentalité. Là, c'est donc le 7 avril 2026, donc il y a quelques jours, Le Monde publiait un article accusant l'académicien donc, et écrivain Boualem Sansal d'avoir lui aussi basculé, on parle avec cette phraséologie du Monde que moi j'adore, de malaise grandissant, de questions qui se posent, mais avec un message qui lui est limpide. Boualem Sansal s'est compromis en fréquentant des médias de droite, c'est quand même cité, hein, des médias de droite, en rejoignant l'écosystème Bolloré, en tenant des propos jugés identitaires, je mets les guillemets à tout, hein, ce sont des citations, et en d'autres termes, donc, il a trahi son camp. La question, c'est quel est son camp et est-ce qu'il avait lui-même un jour prétendu qu'il avait un camp Arthur de Vatrigan, vous connaissez bien, je crois, le travail de Boualem Sansal, et lui-même même, je crois. Est-ce qu'il avait un camp
Non, il n'a pas de camp. L'avantage de Boualem, c'est qu'il dit oui à tout le monde et qu'il discute avec tout le monde. Il n'a jamais refusé une invitation, il n'a jamais refusé un débat.
Ça a pu lui coûter cher.
Il a tellement jamais refusé que parfois il a fait des pétitions pour éliminer des gens sans le savoir lui-même. Il dit jamais non. Donc non, il n'a pas de camp politique, il n'a pas de camp médiatique. Voilà, il discute, il débat, et puis de toute façon, il dira la même chose que ce soit au Monde, à Libé, à Street Press, chez Mediapart, au Figaro ou à Radio Courtoisie. Hein. Il ne va pas changer son discours, il ne va pas l'adapter. Il en a un, il le décline depuis dans ses romans et dans ses essais, et puis maintenant, médiatiquement, il lâchera jamais là-dessus.
Alors comment vous expliquez ça?
J'ajouterais aussi dans votre cible Gaël Brussier, qui s'est fait attaquer par Street Press il y a une semaine et demie, donc entre Camus et Sansal, pour, je cite, le politologue Gaël Brussier multiplie depuis quelques années les prises de position réac et va dans les pires médias d'extrême droite étant Radio Courtoisie, citant en premier.
Je vais cafeter, il est venu au colloque de l'Iliade.
C'est cité aussi.
Ce qui n'arrange pas ce mot-là.
Ça, c'est pas sympa, là, vous l'achevez, là.
Donc non, de toute façon, il y a
une purge en ce moment, évidemment. Il y a une volonté de purge avec des gens, quel que soit leur parcours, les évolutions dans leurs idées.
Aussi, voilà. Jean Quatremer,
exactement. Ouais. En fait, vous avez des personnes qui refusent un moment de suivre un virage qu'ils considèrent un peu trop extrémiste. Brussier comme Quatremer, c'est pas des woke. En gros, c'est ça l'idée. C'est des gens de gauche, mais ils sont pas woke. Et là, ils voient le virage un peu woke et un peu islamisant, et donc ils gueulent contre ça. Et bah, ils se font purger. Et Sansal, bah, le problème, c'est que Sansal, il est revenu. Pourquoi il quitte Gallimard? Alors, les torts, l'histoire est pas aussi binaire que ce qu'on entend aujourd'hui. Il y a un récit un peu gauchisé, on va dire. C'est pas aussi simple. De toute façon, les histoires sont jamais simples. Mais globalement, il quitte Gallimard parce que il voulait pas se taire. Et que pour différentes raisons, Gallimard, on lui a dit à des moments, dis pas ça tout de suite, attends un peu, tu diras ça après, ou va pas dans ce média tout de suite, fais plutôt ça.
Voilà, et pour le protéger lui-même, pendant
il dit, j'y vais. Quoi.
Pendant sa captivité, Gallimard a eu aussi une attitude qui était au moins discutable.
Bah non, parce que c'est Gallimard qui a payé ses avocats. C'est Gallimard qui a payé son loyer pendant 6 ans dans le 6e arrondissement. Donc, enfin, vous voyez, c'est pas si binaire que ça. Faut faire attention.
Gallimard a payé son loyer parce que ça faisait partie de l'intérêt de Gallimard. Je veux dire, c'est pas la première personne dont Gallimard paie le loyer.
Non, mais je dis pas ça.
Parce qu'il a pas été en prison pendant 6 ans non plus.
Je sais bien. Avant aussi. Hein. Je veux dire, c'est.
Oui, non, mais justement,
je dis simplement
que
c'est pas aussi simple que ça. Il y a pas l'affreux collabo Gallimard. Les autres qui sont tous super, super gentils. Sansal, quand il sort de prison, c'est aussi une manne financière pour l'éditeur qui va le recruter. Regardez Sarkozy avec 20 pages où il explique que son miroir est un peu trop bas pour regarder sa baguette. Il envoie 200 000. Imaginez Sansal qui sait écrire et qui a vraiment des choses à raconter juste parce qu'il est resté un peu plus longtemps. Donc il y a ça. Et ensuite, il y a des guerres de com. Alors Gallimard a été nul, évidemment, sur le prix Sakharov au Parlement. Ouais. Et c'était complètement débile. Au moment de la sortie, quand Gallimard prend possession.
Le prix Sakharov, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est un prix de l'Union européenne. Qui vise à récompenser une personne qui, pendant l'année écoulée, a le plus œuvré pour la défense des droits de l'homme ou un truc.
Et Gallimard avait condamné le fait que le groupe PFE le proposait,
c'est ça? C'est ça, en disant non, on ne veut pas ce truc-là. Soi-disant, Sansal leur a dit depuis sa cellule, leur personne communiquait avec lui, qu'il n'en voulait pas. évidemment qu'ils ont, ils ont fait des conneries. Mais bon, voilà, il faut faire attention sur le récit. C'est deux contre-récits qui s'affrontent. Il y en a un qui va gagner, pas l'autre. En tout cas, sur le cas Sansal, de toute façon, le monde peut baver ce qu'ils ont envie de baver. Ça ne changera rien. Ça ne changera absolument rien. Ce n'est pas ça qui va le faire taire, comme ils n'ont pas fait taire Jean-Yves Camus, comme ils ne feront pas taire Gaël Broussier, parce que ce sont des gens qui ont construit toute leur légitimité. Et parce que sur leur sérieux, sur cette liberté-là, ce n'est pas des gens qui sont tenus en laisse, ce n'est pas des gens qui répètent. Et ils ne voient pas pourquoi, en plus, à leur âge, ils changeront maintenant. Quoi. Ça n'aura aucun sens. Donc c'est absurde.
Alexis Poulain, un mot sur cette affaire Sansal ?
Bon, je ne sais pas si ça intéresse le monde. Ça montre simplement qu'il y a encore toujours la petite guerre de Saint-Germain. Et après, Boualem Sansal est un homme libre. C'est lui qui fait ses choix in fine. C'est une belle prise pour Bolloré. Voilà, il n'y a pas de... comme ça vient...
C'est Grasset, hein, c'est pas Fayard.
Oui,
c'est Grasset. Mais Hachette quand même.
Mais c'est quand même.
Non, mais Hachette a tout, alors on voit bien. Voilà. Non, mais il y a Fayard qui est rattaché directement au siège. Et puis Grasset, il y a aussi BHL.
Pour aller vite, voilà. Mais ça reste la guerre germano-pratine qui n'intéresse personne. Ce qui a montré quand même cette affaire Sansal, c'est surtout la démission de la diplomatie française en race campagne. Au-delà de ces guerres et de ce qu'aurait pu faire l'éditeur, il faut se poser la question de ce qu'aurait pu faire davantage l'exécutif qui a été très discret sur cette affaire et très en retrait.
Damien Rieu.
Oui, moi j'ai une version d'un très très proche de Boualem Sansal lorsqu'il est sorti de prison qui m'avait alerté en disant que voilà, il accusait sa maison d'édition de faire barrage pour que Boualem Sansal ne s'exprime pas. Il y avait une histoire où il n'avait pas de téléphone portable, il a fallu lui donner clandestinement un téléphone portable pour qu'il puisse avoir accès, parler à qui il voulait. Il y en a certains dans son entourage qui accusent Gallimard de l'avoir mis sous cloche et de l'avoir essayé de l'avoir muselé. Voilà, je pense qu'il y a quand même des versions et des éléments très concrets. C'était pas normal qu'il ne puisse pas accéder à ses amis, qu'il ne puisse pas leur téléphoner, qu'il ne puisse pas. Donc je pense que ça a déplu à un homme libre comme lui. Il ne l'a pas supporté et c'est pour ça qu'il est parti.
Est-ce que vous pensez donc que ça peut avoir... Est-ce que ça traduit un peu ce qu'on est en train de dire, là, oui, cette espèce de campagne contre toute forme de dissidence au sein de la gauche, enfin, comment expliquer ça, à votre avis? Est-ce que c'est le fait qu'il y a maintenant une césure?
Mais ils ont toujours fait ça.
Oui, mais là, c'est vraiment...
C'est leur sport favori.
Ah,
hein,
oui, évidemment, la révolution dévore ses enfants, mais... Là, c'est quand même...
Mais c'est la nouvelle génération.
C'est une nouvelle génération de jeunes,
journalistes.
En fait,
voilà. Il y a des jeunes qui sont qui maintenant rentrent dans les rédactions parce que c'est normal et que eux se baignent dans un climat de gauchisme militant, aveugle, idéologisé. Ils ont appris à être journalistes dans des écoles où on leur apprend non pas à raconter le réel, mais à faire passer le récit qui est le récit de leur camp. Et évidemment, tous ceux qui contreviennent sont et qui en plus ne sont pas sont des esprits libres et donc ne chassent pas en meute alors qu'on leur a appris la puissance du collectif et la nécessité effectivement d'être tous ensemble sur la même proie.
Il y a aussi la baisse du niveau culturel à l'issue de l'éducation nationale, la baisse de l'esprit critique qui fait qu'effectivement il y a une nouvelle génération de journalistes qui est différente de celle d'il y a 10 ou 15 ans. Là, j'en ai eu le témoignage d'un autre journaliste de gauche, lui aussi présent à l'Iliade, mais que cette fois, je ne cafeterai pas, qui m'a effectivement expliqué...
Il n'y a que des journalistes de gauche à l'Iliade.
Oui, c'est comme ça qu'on a réuni 1700 personnes avec des journalistes de gauche. Parce...
L'Iliade a toujours été de gauche. Hein. La nouvelle droite, on sait que c'est de gauche. Hein.
Voilà, c'est ça. Bon, par rapport au journalisme même d'il y a la génération d'il y a 15 ans ou 20 ans, il y a un changement.
Alors qu'est-ce qui vous a expliqué ce journaliste?
Il m'a expliqué ça.
Il s'appelait comment?
Ah oui. J'ai dit je le capterai pas.
Mais on voit ça également à West France. On connaît quelqu'un qui a travaillé à West France et qui raconte qu'effectivement tous les vieux journalistes de gauche sont aujourd'hui mais totalement traité en réactionnaire par la nouvelle génération montante et que le socialisme bon teint social-démocrate de Ouest-France est en train de disparaître sous les coups d'une jeune extrême-gauche très très woke.
Et ça à Télérama aussi. Hein. Télérama, ils ont fait une purge magnifique. Ils ne sont pas emmerdés. Ils ont dit on va virer les vieux et les mecs. Et donc ils ont fait venir, comment elle s'appelle, cette féministe qui a une boîte pour faire des formations dans les boîtes
As.
Caroline De Haas, elle y est allée, elle a fait son enquête, elle a sorti, elle a accusé deux types, deux rédacteurs adjoints, évidemment des mâles blancs, de viol, agression, tout ça. Il y en a un qui est mort avant la fin du procès à la suite quoi, de maladie, mais qui a été déclenchée suite à ça. Et l'autre, il a perdu 3 ans de boulot, il était innocenté, puis il n'a toujours pas de travail, il ne retrouve pas son truc.
Et il ne retrouvera pas.
Ah, c'est les purges, quoi. Mais en fait, la gauche a toujours purgé, purgé dans ses rangs. Et là, ça prend différents stratagèmes. Ça peut être les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, oui. Les racisés contre les blancs.
Est-ce que c'est là, c'est des petits c'est blancs logique. Contre un arabe, hein, quand même. Parce que ceux qui attaquent Boileau
ouais, sans ça, ils vont dire que c'est un bounty blancs, hein. Ou un truc dans le genre.
Ah oui, sans doute.
Voilà. Dans les rédactions, est-ce que c'est pas une manière aussi de régler ses comptes de manière professionnelle, de prendre des places en fait, ça peut
là, ils ont viré tout le monde. Il hein. y a plus que des gonzesses maintenant, Télérama.
Oui, mais
ça fait quand même beaucoup de règlements de comptes quand même.
Ça peut être l'occasion pour les femmes d'avoir plus de place, d'accéder ouais. à des postes. Enfin, je veux dire, c'est un prétexte, ouais, voilà, des stratégies utilisées pour éliminer des concurrents professionnels. À mon avis, ça doit aussi exister.
Ah non, mais je suis d'accord, il y a toujours un arrière-fond ouais. intéressé.
Pendant voilà. Il y a quand même un climat qui est le cumul des lois liberticides et des réseaux. Il y a un climat de chasse aux sorcières, qu'on a vu alors, se développer au moment des élections municipales, avec les formations... qui était assuré par Street Press ou autre, aux journalistes de province pour traquer les candidats sur les listes. Ils s'appliquent ça aussi à eux-mêmes, quoi.
Oui.
Il y a vraiment un esprit chasse aux sorcières.
Alors, après l'épuration, Arletty, qui avait souffert de l'épuration, avait résumé les choses ainsi. Elle disait, en fait, l'épuration, c'est des gens qui se sont dit « j'ai pas de talent, il en a ». Faut que ça change. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Damien. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet qui est la Hongrie. Alors, c'est très différent, là, on passe à de l'international. Mais donc, hier, alors, je ne pourrais pas dire que c'est à la surprise générale, parce qu'objectivement, je pense qu'on s'y attendait un petit peu. Mais le parti, donc, TISA de Péter Maghiar a infligé une très lourde défaite hein, au Fidesz de Viktor Orban. Maghiar lui-même est un dissident du Fidesz, donc c'est là aussi où ça rend les choses un peu intéressantes, parce que c'est pas du tout la victoire d'une alternance droite-gauche. C'est un dissident qui se contente de dire c'est plus les bons pour mener le pays, et grosso modo, je pense que sur le plan des idées, en tout cas sur l'intérieur, ça ne change pas grand-chose. Sur l'extérieur, en revanche, ça risque de changer grand-chose. Donc en tout cas, ce parti nouveau a obtenu les deux tiers des sièges au Parlement. Voilà, donc à votre avis, est-ce que c'était prévisible? Comment expliquer cette défaite extrêmement sévère d'Orban? Est-ce que vous avez un point de vue, un avis là-dessus?
Alors, Damien Rieu. Moi, je pense que Orban subit l'usure du pouvoir. Hein, 16 ans au pouvoir, c'est énorme. Je crois que le pays est confronté à beaucoup de corruption et que quand on reste trop longtemps au pouvoir, et ben forcément, s'il n'y a pas un roulement, je pense que ça entretient des gens qui profitent du système et que voilà, il y a cette partie-là. On lui reproche, alors certains son atlantisme, enfin ses relations avec l'administration Trump, d'autres son poutinisme. Je ne sais pas, peut-être que la venue de Jed Evans dans les derniers jours n'a pas été très productive. Il semblerait dans les sondages qu'il se serait effondré à partir de ce moment-là, parce qu'en fait les Américains sont tellement aujourd'hui impopulaires en Europe et peut-être même jusqu'à la Hongrie. En fait, s'ils vous soutiennent, ils vous condamnent à mort. On voit que l'AFD en Allemagne essaie de se démarquer. On voit que chez les Italiens aussi, on commence à critiquer de plus en plus parce qu'en fait, ils sont
devenus radioactifs.
Ils sont devenus radioactifs, sont rendus indéfendables en attaquant le Groenland avec les tarifs. C'est compliqué sur la question de la hausse du carburant qu'on peut leur attribuer. Donc forcément, il y a tout un faisceau qui fait que la venue d'Jed Evans juste avant, c'était pas forcément une bonne chose. Alors moi, les bons points d'Orban, déjà... Alors,
pardon, Damien Rieu, il y a aussi le fait que dans la même semaine, pratiquement, le ministre, je crois, hongrois des Affaires étrangères, se fait choper parce qu'il est en train d'expliquer au ministre, à son homologue russe, Lavrov,
donner des informations.
Qu'il est à son service. C'est quand même phénoménal. Un coup de fil pareil,
Alors après, qu'est-ce qui est part de manipulation
L'enregistrement est vrai.
Oui, ouais, d'accord. Ouais.
Donc ça, c'est quand même...
Donc il y a ça.
Ça a dû beaucoup jouer.
Et après, ce qu'on peut reconnaître à Orban, alors déjà, il faut rappeler son parcours extraordinaire. Hein. C'est quelqu'un qui s'est levé, c'est un militant, c'est peut-être le militant le plus courageux de l'Europe, hein, qui s'est levé à l'époque contre le communisme. Il faut quand même rendre hommage à qui est cet homme. Rendre hommage aussi au travail métapolitique extraordinaire qu'a fait la Hongrie, que ne font pas du tout les Américains, par exemple. Hein.
Bah, qui a influencé les Américains, d'ailleurs.
Vous voyez, mais pour l'instant, on ne voit pas beaucoup les fruits.
En théorie, les magas se revendiquent d'un certain héritage de Viktor Orban.
Et c'est pour ça que peut-être Orban va survivre à cette défaite électorale, c'est parce qu'il a construit tout un écosystème métapolitique qui va lui permettre de continuer à défendre et peut-être rebondir. Mais en tout cas, je ne vois pas cette victoire comme une défaite de notre camp. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui, tout de suite, criaient au désespoir, la Hongrie est perdue, voilà. Moi, je ne le vois pas comme ça, et je dirais, voilà comment je vois les choses. Je pense qu'il y a deux manières de défendre nos idées aujourd'hui, la manière extérieure et la manière intérieure. La manière extérieure, elle est d'entrer en confrontation avec l'Union européenne, avec un discours parfois populiste, et ce qui parfois entraîne certaines dérives, et notamment pour moi la complaisance avec des régimes étrangers qui font de l'ingérence, qui en profitent et qui ne sont pas recommandables. Et pour moi, il y a une deuxième voie qui est la voie à l'intérieur, qui est la voie, par exemple, qui est plus celle de Meloni. Et je pense que M. Magyar se rapproche d'un profil à la Meloni, c'est-à-dire qu'il ne va pas affronter directement l'Union européenne, il va travailler, parce que c'est l'intérêt de la Hongrie de débloquer les fonds européens qui étaient pris en otage, hein, qui servaient de pression contre Orban. Et donc, je pense qu'il faut essayer cette méthode de l'intérieur. Il faut que Meloni ait un maximum d'alliés sur sa ligne. Et je pense que ce nouveau Premier ministre est plutôt dans cette stratégie-là. Et il a d'ailleurs envoyé des signaux critiques sur Orban sur la question de l'immigration. Il dit, voilà, Orban, il a fait venir trop de travailleurs étrangers. Donc, on voit que sur la question qui nous importe le plus, ça n'a pas l'air d'être un modéré. Et moi, je ne serais pas surpris que, dans quelques mois, la gauche, là, ou même le centre, hein, qui exulte, ne se morde pas les doigts et ne se rende pas compte qu'en fait, voilà, ils ont tout simplement fait venir une Mélanie hongroise à l'intérieur du système, qui va être peut-être son allié et qui va, à mon avis, être plus nocif que quand on est à l'extérieur et qu'on se marginalise. Voilà.
Alexis Poulain.
Oui, c'est une analyse assez juste parce que c'est vrai que quand on lit la presse française, on a l'impression que Magyar est quasiment le Mélenchon hongrois. C'est vraiment pas le cas. On a affaire à quelqu'un qui a profité hein, du Fidesz, qui a été... qui a trahi dans le dernier kilomètre hein, en voyant son gain et par opportunisme, mais qui, sur les questions identitaires, reste sur la ligne du Fidesz et qui, sur les questions aussi économiques, va essayer, comme ça vient d'être expliqué très bien, de jouer sur tous les tableaux. Il a rappelé hein, que l'Ukraine n'a pas à rentrer dans l'Union européenne tant que c'est un pays en guerre, que sur les 90 milliards, il y a encore des questions et beaucoup de questions. Et donc, ce ne sera pas un partenaire facile pour Ursula von der Leyen, même si on a l'impression que ça va tout changer. Ce que ça montre, c'est... par contre, là où il y a un risque pour la Hongrie, c'est le retour de toute la sphère Soros, où là, quand même, il y avait eu une sorte de périmètre de sécurité qui avait été mis en place par Viktor Orban. Hein, et ça faisait partie de cette métapolitique et de l'idée de justement d'éviter hein, de voir la Hongrie tomber comme les autres pays dans cette ingérence totale des fondations. Là, le risque, c'est le retour en force des fondations et l'idée de raccrocher la Hongrie et de faire tomber, même si Magyar vient d'être élu, il aura peut-être moins de pouvoir, moins de soutien en interne pour tenir bon face aux pressions extérieures de la Commission européenne et des fondations Soros.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi je suis assez en accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'il faut effectivement se garder, maintenant que Orban a perdu, de le piétiner. J'ai eu des réactions un peu de ce genre sur les réseaux sociaux. Il a un bilan extraordinaire, à la fois de militant anticommuniste, et ses 16 ans de pouvoir ont quand même été extrêmement positifs, notamment par son action quand même identitaire, son action métapolitique. Et n'oublions pas qu'en 2015, quand il y a eu la vague d'invasion migratoire, c'est lui qui a bloqué les frontières de la Hongrie. Ça doit rester tout à fait à son actif. Je pense d'ailleurs que l'ensemble des structures qu'il a mises en place quand il était au pouvoir vont perdurer parce qu'elles ont des financements pérennes qui ne dépendent pas de l'État, au-delà de sa perte du pouvoir. Alors peut-être a-t-il eu tort de vouloir continuer à régner tout seul et pas mieux organiser, j'allais dire, sa propre concurrence, peut-être en laissant un peu de place à sa droite, j'en sais rien. Là, en l'occurrence, il a d'ailleurs
peut-être
été
peut-être aussi
éliminé.
Trop de complaisance quand même, parce que la corruption est vraiment réelle et certains scandales étaient réels aussi. Quoi. C'est ça.
Oui, enfin,
c'est
ça,
pas parce qu'on est
ça,
quelqu'un
les
de.
Les scandales existent quand on en parle.
Mais...
On pourrait parler du scandale de Thompson en France, par
oui,
exemple.
Mais
on en parle
faudrait.
Pas. Voilà.
Bah, non, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas en France et qu'on a tort que le fait
pas,
d'en parler
ouais.
là-bas est,
bon.
est mauvais.
Alors,
ça existe.
Il y a un ralentissement économique quand même. Et ça, on sait que c'est décisif dans une période électorale. Ça ne pardonne pas.
Ça, c'est sûr.
Enfin, un ralentissement qui est provoqué, entre autres, par l'Union européenne. Puisque en supprimant une partie des crédits, elle empêche que ce soit redistribué.
Oui. Ben, il y a peut-être eu aussi un étatisme pas toujours très performant, je ne sais pas.
Je crois que Magyar est plus libéral, effectivement, et ça pourrait peut-être améliorer la situation économique.
Magyar a une position de campagne électorale sur l'immigration qui est très bonne, puisqu'il veut arrêter, y compris l'immigration de travail, qui est quand même un problème, notamment en Italie, et qui l'était sans doute aussi en Hongrie. Maintenant, entre les déclarations de campagne électorale sur l'immigration et la réalité, l'expérience historique prouve que dans de nombreux pays, il y a un fort décalage.
Ouais, enfin, en tout Hongrie, cas, on peut être confiant.
En tout cas, il part sur une bonne base, sur ce qui est quand même un sujet absolument essentiel. Je pense d'ailleurs que ces députés au Parlement européen ont dû faire partie de la partie du PPE qui a voté avec les groupes patriotiques la restriction de l'entrée aux frontières.
Moi, je partage assez l'avis de Damien Rieu sur le fait que, encore une fois, Magyar n'est pas du tout un homme de gauche, un homme de l'alternance, c'est vraiment un simple dissident du même parti. Et qui a peut-être eu envie simplement d'assainir le gouvernement ou le parti.
Mais il a dû être soutenu par des forces extérieures qui
ne
doivent pas être très favorables.
C'est là la question maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'il les a instrumentalisés pour ensuite mener une politique qui sera une politique de droite ?
Qui contrôle qui dans cette affaire ?
Exactement. Et qu'est-ce qui pourra l'empêcher d'exercer le pouvoir ou pas ? Voilà, ça
c'est difficile à dire
pour
nous,
aujourd'hui,
observateurs étrangers. Il faut attendre plusieurs mois pour en tirer des conclusions.
Mais voilà, moi, je ne suis pas trop pessimiste là-dessus. Et je crois vraiment... Ce n'est pas du tout comme si c'était un social-démocrate. Quoi. C'est vraiment
de voir Manon Aubry et l'extrême-gauche s'en féliciter, je pense qu'ils... Là, pour le coup, on est sûr qu'ils vont être déçus.
Je pense. Alors, on a beaucoup de messages d'auditeurs de Radio Courtoisie.
Parle de choses
un peu
en retard,
c'est pas grave, on rattrape.
Je prends note de votre excellente émission, parfaitement documentée. Je ne peux m'empêcher, je ne dois pas être le seul de vos auditeurs à avoir cette terrible impression que les Français d'aujourd'hui se retirent derrière des lois qui, espèrent-ils, vont les protéger. Pour ma part, et c'est ce que j'ai inculqué à mes fils, il n'est pas marqué victime sur mon front.
Eh bien, c'est bien, bravo.
Très bien. Vous êtes validé, vous pouvez à nouveau...
Envoyer encore des messages.
Le centralisme jacobin matérialiste ne récolte-t-il pas le fruit de son apologie du déracinement intérieur comme extérieur pour détruire les peuples de France et d'ailleurs ? Et la solution n'est-elle pas le fédéralisme, donc européen sous-entendu, pour réenraciner la France ? Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Yves Le Gallou ?
Moi, je suis un partisan de la multi-identité, c'est-à-dire l'identité communale, l'identité du terroir et du pays, l'identité de la province... l'identité nationale et l'identité européenne. Je crois qu'il ne faut pas opposer les identités, il faut cumuler les identités, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une situation de perte d'identité, et par conséquent, tout ce qui peut redonner de l'identité, y compris au niveau local, y compris au niveau provincial, et moi je trouve très bien que l'Alsace se sépare de cette région absolument ridicule, qui est la région Grand Est, qui commence chez Copé, à Melun ou à côté, pour finir à Strasbourg, que l'Alsace redevienne une collectivité de plein exercice, ça me paraît une bonne chose. Même si ça déplaît effectivement aux Jacobins.
Et mort aux Jacobins. Et un auditeur nous dit, il y a une réalisatrice qui en parle, c'est Cheyenne Caron. Donc je suppose qu'il y a une réalisatrice qui parle justement du racisme anti-blanc, par rapport à tous ceux qui le taisent.
Oui, Cheyenne Caron fait partie des quelques réalisateurs.
Cheyenne Marie Caron d'ailleurs.
Cheyenne Marie, oui. Alors je rappelle qu'on avait Michel Faux il y a une semaine ou deux à Radio Courtoisie et c'était là aussi un discours émanant du monde artistique qui était assez atypique et que je dirais pas totalement de gauche. C'était intéressant. Alors, on a encore quelques minutes pour traiter un dernier sujet, c'est l'Iran. et évidemment tout ce qui se passe autour, c'est-à-dire le Liban occupé, l'échec des négociations de Jed Evans qu'il a annoncé lui-même en quittant l'Iran, ce putain de détroit, donc pour reprendre les mots de Donald Trump, qui maintenant subit un double blocus. Puisqu'il y a
autoblocus.
Autoblocus, oui. Il y avait, j'ai beaucoup aimé, c'est Richard de Sèze qui disait la semaine dernière, je crois, que Trump se vantait d'avoir débloqué le détroit qu'il avait lui-même contribué à bloquer, ce qui était quand même du humour comique.
Et que maintenant, il rebloque.
Et que maintenant, il rebloque.
Faire et défaire, c'est toujours travailler.
C'est assez phénoménal. Donc voilà, je ne sais pas ce que cette situation qui commence à devenir mais complètement délirante vous inspire. Alexis ouais. Poulin.
Je veux bien, parce que c'est quand même assez formidable de voir que le dossier iranien devient extrêmement gênant pour Donald Trump, mais il y a un dossier dans le dossier. Je ne sais pas si vous avez suivi aujourd'hui quand même le scandale de la photo de Trump en Jésus qu'il a postée sur son réseau Truth Social. Donc en IA, on le voit à poser les mains et guérir un patient avec des soldats et des F-35 derrière lui. C'est quand même la seule limite de Trump. Ça a provoqué un tollé. Il a retiré ce poste de Truth Social. Et là, il vient d'expliquer ce soir qu'il avait posé en médecin de la Croix-Rouge et que ce n'était pas du tout pour se moquer de... C'est un enfer. Non, mais là, on arrive dans des degrés. Et je pense, alors, ça pourrait être une pirouette de stratégie pour faire oublier le fiasco d'Hormuz et passer sur un fiasco moindre, mais qui est quand même un tollé, là. Après les paroles sur le pape qui ont été extrêmement violentes, on a l'impression quand même que ça patauge sévère à la Maison-Blanche et que là, sur Hormuz, il n'a pas vraiment de solution, puisqu'il n'y a pas de coalition qui se forme, visiblement. Et alors, il y a des vols d'avions militaires hein, de ravitaillement qui sont en train de traverser l'Europe pour aller au Moyen-Orient, mais j'ai l'impression que ça reste quand même de l'improvisation et qui ne va pas dans le bon sens.
Alors, concernant Jésus, je ne sais pas si c'est... Je parle de mémoire, donc je ne sais pas si ce que je dis est exact ou si c'était une parodie, mais il aurait dit que s'il avait été vivant à l'époque du Christ, on ne l'aurait jamais crucifié. Et là, on se dit quand même, en matière de théologie, il y a quand même un petit pépin.
Non, mais il faut voir aussi la manière dont Paula White est en train de lui expliquer qu'il était le sauveur, parce que comme Jésus, il avait été enterré, et comme lui, il était ressuscité. Enfin,
Après avoir été humilié.
Il y a quand même un protestantisme évangélique qui est un peu bizarre aux États-Unis. Sur Hormuz... il faut quand même remarquer deux choses. D'une part, il y a quand même une coalition qui est en train de se faire, et c'est la coalition notamment de Macron, de Starmer, etc. On a l'impression que l'Union européenne, qui n'a pas accepté de participer à cette guerre ridicule et injuste, est en train, au contraire, pour ce qui est de la liberté de naviguer, de constituer un outil diplomatique assez efficace. Et rappelons que les aviateurs français sont en train de faire régner la sécurité dans une partie du ciel du côté du détroit d'Hormuz, de Bab el-Mandeb, etc., en abattant notamment les missiles-outils. Donc, autrement dit, il y a une action en fait, militaire qui n'est absolument pas américaine, qui est efficace et qui contribue à assurer, ou qui pourrait contribuer à assurer la liberté de la navigation. Le deuxième point, c'est qu'il faut quand même rappeler qu'entre deux visuels complètement douteux, comme celui où on mélangeait des jeux vidéo et des frappes réelles en Iran, comme si les Iraniens qui meurent, y compris les écoles, assaisonnées à coups de missiles américains parce qu'une IA n'avait pas été mise à jour, sont quand même en train de nous dire aujourd'hui que les vedettes rapides de la marine iranienne ne pourront pas faire pièce aux destroyers américains, vedettes rapides qui étaient censées avoir été coulées, en fait. Et donc, c'est le détroit d'Hormuz est une catastrophe industrielle d'un point de vue de la communication, puisque Trump est obligé à chaque fois d'expliquer que tout ce qu'il avait dit auparavant, et d'ailleurs il ne l'explique pas, mais on ne peut pas s'empêcher d'aligner toutes ses déclarations et de voir qu'à chaque fois, il a menti. Et il a menti vis-à-vis de gens en fait, qui n'ont pas envie de le croire. Dire, en intérieur, peut-être que ça fonctionne. Peut-être que la base MAGA, comme on dit, continue à croire que Trump est évidemment une espèce de mélange de Hulk et de Jésus-Christ. On attend d'ailleurs avec impatience...
Réponse bientôt, parce qu'il y a les élections de mi-mandat qui arrivent.
Voilà. Mais que, évidemment, à l'extérieur, on a juste l'impression que le gars a complètement fondu les plombs.
Damien Rieu.
Et même aux États-Unis.
Moi, évidemment, je vous doutez, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce que, avec tout ce que vous avez dit. Je pense déjà qu'il ne faut pas lire Trump au premier degré. En fait, Trump, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il cherche à déclencher une réaction ou à avancer un point sur une négociation. Et nous, à chaque fois, ça fait depuis 2016 que ça dure, on le lit au premier degré, comme si on n'avait pas compris pour la 1500e fois que quand il disait quelque chose, il pouvait dire tout à fait l'inverse le lendemain. Mais c'est parce qu'en fait, ça correspond à avancer des pions sur notamment des cartes de pression, des cartes de négociation. Et moi, je pense qu'on continue de se faire avoir et je pense que c'est une erreur. Non, sur Hormuz, pour moi, ce n'est pas du tout une catastrophe. Et d'ailleurs, depuis 2-3 jours, il y a certains experts quand même qui, enfin, apportent, je dirais, un discours un petit peu différent. Parce qu'en France, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule lecture de cette affaire Hormuz qui est « c'est la catastrophe ». Moi, je crois, j'en crois ces experts, hein, ils expliquent que la Chine, en fait, au lieu de s'approvisionner en Iran désormais, regarde du côté des États-Unis, on voit sur Marine Traffic les cartes avec des dizaines, des centaines de bateaux qui viennent s'approvisionner en pétrole auprès des États-Unis et que l'Iran, en fait, a tué ses otages. Ses otages, c'était son détroit d'Hormuz. Et en fait, en utilisant l'arme du détroit, eh ben, il s'est lui-même tué sa propre, je dirais, son propre moyen de pression. Et Trump a, pour moi, répondu de la meilleure des manières en faisant ce blocus qu'il contrôle par lui-même. Il reprend la main sur le levier et il prend les Iraniens à leur propre jeu. Et ça coûte une fortune aux Iraniens. Je crois qu'ils perdent plusieurs centaines de millions par jour, de dizaines de centaines de millions par semaine par jour. Parce que maintenant que le blocus est total, ils ne peuvent plus rien exporter et ils vont donc droit à la faillite. Donc à mon avis, c'est très bien joué. Ce sera une manière pacifique de faire pression sur les finances iraniennes. Il y a donc, comme je le disais, une réorganisation de tout le marché pétrolier mondial avec les Saoudiens, vous savez, qui ont mis en place un oléoduc qui contourne ce détroit d'Hormuz et donc qui sont en train d'exporter leur pétrole par un autre biais. Il y a un autre oléoduc du côté d'Oman. Donc en fait, le monde entier, j'en finis juste, se réorganise. La production l'exportation du pétrole se réorganise. Et en fait, l'Iran va disparaître de la carte du pétrole et les États vont aller chercher des solutions partout ailleurs. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas la même lecture.
En 30 secondes, Alexis Poulain, une réponse au dernier électeur de Donald Trump qui est...
Moi, je veux juste
30
juste
secondes pour de vrai,
pas binaire.
Parce que à chaque fois, donc il y a un message. Pourquoi Trump fait une image de lui en IA en Jésus? Enfin, c'est quoi le but là?
Je n'ai pas la
alors, on n'a pas le temps d'en débattre.
J'ai pas la réponse parce qu'on arrive vraiment à la fin. Ça pouvait être du second degré, ça pouvait être une provoque, ça pouvait être de l'ubris. Je ne sais pas. Hein, je dis pas qu'il y a.
C'est peut-être la meilleure solution.
C'est possible. Mais en tout cas, ça fait parler pendant ce temps. Peut-être qu'il voulait que ça parle de lui. Il veut toujours qu'on parle de lui. Et c'est comme ça qu'on maintient une campagne permanente, c'est faire parler de lui. Donc c'était peut-être ça, je sais pas.
Pas en bien.
Ouais. Alors il nous reste quelques secondes. On veut peut-être présenter en express le dernier numéro de Politique Magazine.
Voilà, un excellent numéro. On parle de l'affaire Epstein. Les gens de Radio Courtoisie nous reprochent de ne pas en parler assez. Venez chercher la vérité dans Politique Magazine. Et aussi, on parle un peu de l'Iran en n'étant pas exactement aligné sur Damien Rieu et son éloge président du président seul. Trump.
Mais c'est pas grave, on vous aime.
mais voilà, je suis seul.
Alors, sur l'affaire Epstein, avant de se quitter, je vous rappelle quand même que c'est à Radio Courtoisie qu'on vous a donné un maximum de détails qui n'avaient pas encore été révélés sur les liens entre Epstein et la France et que nous avons retrouvé le dossier supprimé par les autorités américaines concernant Jack Lang, rapport de 50 pages, que notre journaliste Julie Solveig a retrouvé avec ses petites mains blanches et que nous sommes en train de décrypter et dont nous vous rendrons compte bientôt. À demain pour un nouveau Restons Courtois avec Richard de Seize et à lundi prochain avec votre serviteur. À bientôt.
Ça suffit maintenant.